patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour chers auditeurs.
Alors nous poursuivons la lecture de l'ouvrage de Gilles Lade, Conte des mille collines, paru aux éditions Tertium. Aujourd'hui, vous allez nous partager quel texte ?
Alors aujourd'hui, je vous propose un animal sauvage, une tigresse.
Bon, allons-y.
Une tigresse dans le Causse, vous imaginez ?
Ah oui, ouf.
Alors nous commençons. Voilà plusieurs mois que le bruit s'amplifiait. Derrière les deux puissantes rangées de grillages qui se dressaient dans un endroit assez isolé du Causse, un groupe de scientifiques et de passionnés avait créé, avec le soutien des autorités, un centre de vie de tigres de Sibérie. Ces animaux étaient d'ailleurs plus discrets que les loups, dont une meute, prisonnière elle aussi d'un enclos situé sur les hautes terres du massif central, hantée de ses hurlements les nuits glaciales du plein hiver. Ce parc était vaste, 1 millier d'hectares, strictement clôturé par ces deux enceintes séparées de 30 mètres environ. Les tigres évoluaient dans un espace contrasté où se succédaient des bosquets, des landes d'herbes fraîches, des infrastructuosités, des arbustes, de grands arbres isolés, des chaos, des vestiges de murets, bref. Les félins allaient et venaient, apparaissaient, prenaient diverses attitudes d'attente et d'observation et, tout simplement, se faisaient oublier. Aux deux extrémités, une ouverture était ménagée à travers les deux lignes de grillage contrôlées par la technologie la plus récente. L'entrée la plus fréquentée permettait d'assister à des mises en scène souvent improvisées et manifestant le haut degré de symbiose atteint par les hommes et les tigres. Plus que de gardiens, il s'agissait de compagnons, hommes et femmes, par ailleurs ethnologues, spécialistes du comportement animal. Ils les avaient fait téter comme des chatons, puis avaient partagé leur vie jour après jour, alternant jeux et marques d'autorité. Quelques gradins distraitement disposés permettaient à des spectateurs de voir les tigres évoluer parmi les humains. C'étaient des bons gracieux, des mimiques de complicité, des esquives et des poses variées. Le plus fascinant était de constater que ces prédateurs avaient pleinement conservé leur puissance et leurs réflexes, mais qu'ils semblaient avoir mis entre parenthèses leur côté dangereux. Une fois épuisée toute la gamme des jeux les plus espiègles, les plus ingénus, les plus athlétiques aussi, tigres et humains, se jetaient dans une piscine selon des trajectoires étourdissantes, les seconds venant se lever dans l'énorme creux provoqué par la chute des premiers. L'on s'attendait à ce que les uns écrasent les autres, mais une grosse tête, finement rayée, émergeait aussitôt, tout près des cheveux plaqués de l'homme ou de la femme. Les uns et les autres sortaient du bassin en s'ébrouant, après s'être congratulés dans les eaux. Le tigre embrassé tirait doucement la langue et l'homme chevauchait brièvement la croupe musculeuse. La scène prenait fin comme un moment de sport et de détente entre amis. Simplement, l'allant des tigres, d'autant plus saisissant qu'il n'était pas jugulé comme dans les numéros de dressage, ouvrait de nouvelles perspectives sur le monde animal et la nature de ces grands félins. C'est de ce côté-là du parc qu'affluaient les voitures et quelques cars. Les enfants, follement impatients, devançaient les parents, et le personnel du centre avait beaucoup de peine à persuader les visiteurs qu'il ne s'agissait point d'une kermesse. Or, tout à l'opposé, existait une seconde entrée, discrète, purement fonctionnelle, dans la partie boisée du COS. Le comité scientifique et la direction voulaient favoriser des implications différentes du public. Il s'agissait d'étudier la réaction des tigres à la présence et à l'intervention guidée de tel ou tel visiteur qui jouerait le rôle de volontaire. Pourrait-on établir un rapport affectif privilégié entre un tigre et cette personne? Comment l'animal réagirait-il à la voix, aux gestes, aux vêtements? Les responsables avaient élaboré un protocole de mise en présence des tigres et des visiteurs, d'abord de part et d'autre du grillage, puis directement dans le parc. Un jour, Pierre et Vivien, le père et le fils, depuis longtemps intrigués par cette double clôture métallique à l'intérieur de laquelle des ombres rôdaient, s'arrêtèrent devant l'entrée la moins fréquentée. Des reportages télévisés les avaient enthousiasmés. Un lien authentique existait là, entre les hommes et les fauves. Un lien qui avait permis, non pas de priver les animaux de leur agressivité, mais de montrer que la férocité ne constituait pas la base invariable de leur comportement. Depuis un moment, deux gardiens, éthologues Bertrand et Walter, jaugeaient silencieusement la motivation de quelques personnes présentes lorsque Walter sollicita avec une certaine vivacité l'engagement d'un volontaire. Sylvain alors se tourna vers son père. Pourquoi n'essaierait-il pas, lui qui mêlait chat et chien dans le même amour, leur parler comme à des semblables, lui qui portait à tout le règne animal une affection complice. Il s'agissait d'abord, tout simplement, de présenter de la nourriture au tigre à travers une ouverture à l'aide d'une assez longue tige métallique. Chacun créerait le lien à sa manière, par le regard, par la voix, par l'attitude. Il fallait appeler le félin par son nom et mettre dans cet appel l'intention, la résonance les plus personnelles. Que la note essentielle fût d'autorité ou de tendresse, peu importait. Elle devait délivrer la nature profonde de la personne. Le gardien surprit le regard insistant de Sylvain à l'intention de son père et l'œil ému, fasciné de ce dernier. Alors il saisit l'occasion. « Allez, vous, je vais vous montrer. » Il piqua la viande, l'attendit à Pierre et ouvrit le guichet. « Liska !» appela-t-il la tigresse et elle s'approcha. Pierre, pâle, son regard enveloppant la tête puis le corps du fauve en son approche, proposa le quartier saignant. « Tiens, viens !» La tigresse saisit promptement la viande, s'accroupit, se ramassa, entama le quartier, puis s'éloigna de quelques mètres pour terminer son repas. Pierre, les mains accrochées au grillage, continuait de parler, d'accompagner à voix chaleureuse, admirative, vibrante, les coups de croc et de mâchoire. L'animal devenait de minute en minute un être familier dont la puissance et le charme décuplaient l'affection de l'homme. Dans le groupe qui s'était constitué ce jour-là et qui comprenait outre 7 ou 8 visiteurs, Walter et Bertrand, faisant office de moniteur, c'était lui, Pierre, lui seul qui parlait, s'exclamait, s'extasiait devant la tigresse occupée à ronger la colonne vertébrale du bœuf. « Liska !» disait-il en grondant d'affectueuses moqueries, comme s'il avait commenté l'appétit d'un camarade après un entraînement sportif. Ses propos s'adressaient à la cantonade, mais avaient pour sujet l'animal, désormais au centre de son regard et de sa passion. Ses accents enthousiastes et prévenants étaient ceux d'un père à l'égard de son enfant, et mêlaient à la fois bonhomie et pudeur. La tigresse, son repas terminé, ne parut pas réagir à l'insistance captivée de Pierre. Elle se pourlécha à plusieurs reprises, le regard vague, puis se retourna et s'éloigna paisiblement. Pierre enchaînait observations et interprétations, prenant l'un ou l'autre à témoin de la puissance et de l'élégance de l'animal. Mais lorsqu'il voulut la désigner de nouveau, elle avait disparu. Pas la moindre tigresse aux alentours. Seulement les infimes reliefs du repas de Liska et la trace immatérielle de sa démarche. Pierre se retourna alors vers le groupe. Une femme qui avait accepté de nourrir un autre tigre s'en était détachée. Il parlait d'abondance des animaux, de leur extraordinaire instinct, de leur bonté, de leur malice, de leur élégance. Il racontait des souvenirs émouvants ou tragiques, tel chat qui lui avait prouvé jusqu'à la mort le plus fidèle attachement, tel de ses chiens, le plus remarquable sans doute, tué à la chasse. Tous, tenus à la laine, en haleine, écoutaient et donnaient à leur tour des exemples. Cela dura près d'une heure, puis le groupe s'effilocha. Vivien s'était éloigné, espérant apercevoir un tigre plus loin. Pierre engagea la conversation avec un autre membre de l'équipe, lui posa quelques questions sur les conditions concrètes de l'existence de ses pensionnaires, sur leur nourriture, sur leur humeur, les incidents les plus fréquents. Puis il se retrouva seul et se mit à fumer vaguement, troublé par les effluves des fauves. Quelle aventure tout de même que de les approcher sans l'apparat ni le vacarme d'un cirque. Il se rappelait ses émerveillements d'enfant devant les immenses grilles dressées sous le chapiteau, puis le choc véritablement physique à la vue du premier tigre, ce pelage qui signifiait immédiatement puissance et maîtrise, secret, supériorité. Il gardait exactement dans l'oreille la vibration des tiges métalliques lorsque chaque fauve, à son tour, bondissait souplement sur les escabeaux qui étaient adossés, ainsi que la rumeur d'effroi des spectateurs et le claquement des fouets qui tenaient en respect les lions et les tigres. Et les bonds à travers les cercles enflammés et les courses sur le dos des chevaux et les baisers du dompteur. Il en était là, environné de tout l'éclat des applaudissements, des batteries et des cuivres, lorsqu'il entendit un bruit étrange, très doux, très proche, comme un crissement atténué. Il se retourna et « Liska !» Ce mot s'échappa de sa bouche, dans le même temps que ses bras se portaient en avant, en offrande, comme pour prendre à témoin toute une foule de son étonnement émerveillé, car la tigresse était là, appuyée de tout son corps, sur le bas du grillage et lui tournant le dos. Elle était à moins d'un mètre. Elle s'était avancée sans bruit, elle était venue le rejoindre en se glissant dans les lacunes de son regard et de son attention. Oh, il se sentit envahi d'une émotion, mais une émotion, d'une gratitude dans laquelle il reconnut le simple respect. « Liska, dit-il une deuxième fois, à forte et pleine voix, tu es venue. » Elle redressait un peu la tête, attendant.
Merci Chantal, désolé de vous couper, mais malheureusement le temps qui nous est imparti est écoulé. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine émission pour évoquer la suite de ce poème, je le rappelle, qui est tiré de l'ouvrage de Gilles Lade, Conte des Mille Collines, le poème donc qui s'appelle La Tigresse. À bientôt Chantal.
À bientôt.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.